Ça fait le tour pas mal pour ça. On peut se permettre maintenant de parler d'éducation avec Éric Lantier, notre chroniqueur, qui souvent touche à cette matière-là et qui veut aussi nous parler de pornographie en même temps aujourd'hui. Et pas dans le sens que vous pensez. Salut Éric. Comment ça va?
Salut. Oui, oui, ça va bien. Bien content d'être de retour avec vous.
Bien sûr, on s'ennuie un peu. Et justement, pour parler d'éducation, les maternelles 4 ans ils sont tant chers au premier ministre actuel, ça ne veut pas dire que c'est applicable nécessairement à grandeur de la province. Il y a des limites, il y a des problèmes qui apparaissent au fur et à mesure où on veut instaurer ça. Et tu as une opinion sur le sujet?
Oui, bien moi, à l'origine, j'étais favorable à ce projet-là, mais plus que ça avance, plus que je vois ce que ça implique, je me dis, oh, un instant, là, on va trop vite puis trop loin.
Ouais.
On est tous pour la vertu, hein? Je veux dire...
Pas moi, non, je suis pas d'accord. Moi. Mais oui, on est pour la vertu, puis ça a plein de belles possibilités, cette affaire-là. Personnellement, ma petite, à un an, là, et je pense pas l'envoyer à la garderie, mais... Les maternelles 4 ans, gratuites, rendues là, pour la socialisation le plus tôt possible, ben là,
Oui. Je
trouve ça intéressant, je trouve ça une bonne affaire. Si ça se fait à un coup qui a de l'allure, allons-y fort, mais c'est peut-être là qu'il y a des problèmes, entre autres.
Oui, mais c'est parce que tant qu'à investir de l'argent pour améliorer le système d'éducation, ben, dans un premier temps, il faut investir pour attirer les jeunes à vouloir devenir un enseignant ou une enseignante. Parce que, déjà, en termes de ressources, on a de la difficulté à recruter, on a de la difficulté à trouver des suppléants.
Ouais.
Si on ajoute des postes d'enseignants, d'enseignantes pour la maternelle 4 ans, on a un sérieux problème au niveau du recrutement.
Il y a déjà des pénuries. Mais à ta connaissance, les postes les plus favorables pour le recrutement en termes d'années scolaires là, que les étudiants vont viser à la sortie, est-ce que... Moi, j'ai l'impression que les plus jeunes, ça doit intéresser moins de gens. Est-ce que tu peux?
Ouais.
Pas de statistiques là-dessus, nécessairement?
Ouais, ce qui intéresse beaucoup, là, c'est, je te dirais, deuxième, troisième, quatrième année, parce que, bon, quand sont tout petits, c'est plus difficile, faut répéter des consignes, faut être très patient.
Ouais.
Une fois qu'ils savent écrire, là, puis qu'ils ont une aire d'aller,
ben
là, à ce moment-là, c'est intéressant.
On rentre dans matière.
Année, exactement. 5-6e année, il y a des problèmes de discipline. 6e année, les examens du ministère pour passer au secondaire.
Okay.
Je te dirais 2-3-4e année, c'est l'idéal.
C'est ce que les gens visent le plus.
Ouais.
Sauf qu'ils se placent où ils peuvent souvent.
Ouais, mais là-dessus. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça l'affaire. Tu choisis pas toujours ce que tu veux, là. Mais surtout quand tu rentres au début. Puis, la tâche, elle est tellement exigeante. Elle est de plus en plus exigeante. Et c'est là qu'il faut miser davantage, à mon avis. Là où est-ce que je suis d'accord avec le ministre Roberge, c'est que les maternelles 4 ans ont une raison d'être. Mais là où je suis d'accord encore plus avec la Fédération autonome de l'enseignement,
okay,
c'est qu'on devrait commencer par les implanter dans les milieux défavorisés, là où est-ce que les enfants sont les plus vulnérables.
C'est l'argument le plus probant de cette idée-là, à la base.
Ben
c'est,
oui.
C'est pour aider, oui, les milieux défavorisés. C'est la même chose pour les garderies à prix modique, puis gouvernementalisées, pour le dire de même. Alors, oui, absolument. Graduellement, en ce sens-là, c'est une excellente idée. C'est pas mal la solution. Est-ce que peut-être envisager de couper une année? Je comprends pas pourquoi c'est 4 ans. Absolument, un bac en enseignement, alors qu'il y a plein d'autres bacs, peut-être avec des métiers peut-être au bout de la ligne plus complexes, qui se limitent à 3. C'est envisageable qu'on procède à ça?
Ben, on avait débuté avec 3. Moi, par exemple, à l'époque où est-ce que j'ai fait mon baccalauréat, c'était 3 ans.
Mm-hmm.
On a ajouté une 4e année parce que on voulait que ceux qui aspirent à l'enseignement aient plus de temps dans les stages, une meilleure formation et donc plus d'occasions d'être sur le terrain. Parce que c'est beau d'avoir des cours théoriques là, sur les didactiques puis tout ça, puis apprendre la psychologie de l'enfant, c'est nécessaire. Mais il n'y a rien comme être lancé sur le plancher des vaches puis faire face au vrai problème dans une réalité de classe, ça c'est...
Ça devrait peut-être être fait plus tôt aussi, parce qu'il y a du décrochage chez les profs aussi le processus, parce qu'on se rend compte de ce que c'est vraiment au bout de la ligne, puis ça ne tente peut-être plus. Alors un petit trempage d'orteil aussi, peut-être dans la première année, ça pourrait être une bonne idée, quoi envisager?
Ouais, ben, La plupart du temps, là, dans les formations qui sont données à l'université, il y a un stage dès la première année, dès la première session, pour justement te dire, es-tu prêt, est-ce que tu veux vivre
ça? Mais ça, c'est ça. Mais c'est le stage où tu es assis et tu dis pas un mot. C'est bien ça, hein?
Oui, mais ça, c'est en théorie. Mais dans la vraie vie, les enseignants, les enseignantes, ils t'utilisent parce qu'ils ont le goût de prendre un petit repos. Puis, tu vas voir, ça va te faire du bien, tu vas voir ce que c'est vraiment.
C'est
correct comme ça. Mais comme je te l'ai toujours dit, Guillaume, moi, je crois à un système à trois vitesses, c'est ça qui va régler la question. Un corpus ou un cursus régulier, un cursus pour les problèmes d'apprentissage, puis un cursus pour les projets particuliers.
Enrichi.
Enrichi, sport-études, hors-études, international, nomme-les. Mais en ce moment, parce que tu mets tout le monde dans le même panier, c'est décourageant pour un enseignant.
Ben, c'est sûr. C'est sûr, parce que lui, il voit l'espoir qui est en train de se faner parce qu'il n'est pas nourri. D'un autre côté, il y a de la misère à aider vraiment celui problématique. Puis entre les deux aussi, on échappe de tout bord de côté. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ton plan en trois étapes. Aussi, tu prônes peut-être plus de lecture, moins de discipline. C'est un titre là, de sujet que tu m'as envoyé pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça vient de toi ou c'est externe?
Non, c'est l'université Rutgers, R-U-T-G-E-R-S, qui a sorti une nouvelle étude qui montre que si un parent passe beaucoup de temps dans la lecture, mais dans une atmosphère sereine, calme, où est-ce qu'il y a un contact chaleureux, eh bien, ce que ça va produire, c'est que l'enfant est moins susceptible d'être qualifié d'hyperactif ou d'avoir des problèmes de comportement. Okay. Alors, il y a une incidence qui est directe entre la qualité, le temps de qualité entre un parent puis un enfant qui passe du temps devant un livre. Et dès la première année, dès que l'enfant a un an, c'est sûr qu'il ne sait pas lire, mais tu lui montres un livre avec des images, tu lui racontes l'histoire.
J'ai commencé, moi, avec ma petite fille, 11 mois, puis ça fonctionne. Il n'y a pas une demi-heure d'attention, mais elle s'émerveille un peu. Puis, tu sais, ça y fait se demander c'est quoi ça. Puis après ça, elle vide mes bibliothèques. Dès que j'ai le dos tourné, elle sac tout ça à terre. Ça veut dire que j'ai peut-être réussi à susciter quelque chose. Alors, ça fait le tour pour ça. On voulait parler de pornographie et des effets néfastes que ça peut apporter. Tu avais quelques mots à nous donner là-dessus.
Ben, ce qui est intéressant, là, c'est pas une étude américaine, c'est une étude québécoise.
Oh!
Ça, c'est le fun, parce que souvent, on s'inspire des Américains, parce que les autres, ils think big, tu sais.
Mais on n'est pas en même culture, il y a vraiment des différences, fait qu'on est aussi bien de se regarder comme faut le nombril des fois avant de trop se comparer aux Américains ou penser qu'on est similaire. Qu'est-ce que ça dit, ça, au Québec, pour la porno, les risques après ça?
Ben, c'est que, dans un premier temps, il mentionne que la pornographie n'intéresse pas seulement les hommes parce que maintenant, on constate que 55 % des femmes qui ont été consultées entre 16 et 83 ans consomment de la pornographie.
Et donc, chez les hommes?
89.
Ouais. On est encore meilleur.
Oui, c'est ça. C'est un peu plus fort. Mais l'autre point, c'est que ce qu'on découvre, c'est que les amateurs de porno ont des comportements sexuels plus à risque.
Ben, certains amateurs, là. Éric, pas tous.
Oui. Sur qu'ici, il y a 89% de personnes qui consomment la. 89%
des hommes.
Des hommes qui consomment de la pornographie, est-ce que ces 89%-là ont des comportements à risque?
Ben non.
Non.
Ce que je me demande, c'est ils ont fait l'étude à l'âge. Ça a commencé à 16 ans? Parce qu'on s'entend que normalement, la pornographie, c'est 18 ans et plus.
Ben oui, je sais.
Ils vont quand même sur Internet, là, mais tu sais, en quoi qu'ils ont décidé de faire un sondage, ils ont dit on va demander aux jeunes de 16 ans, on le sait, là, même si c'est pas censé être légal.
Je pense que tu viens de l'avoir. Tu t'es répondu.
Ouais. Ouais, mais c'est parce que.
Je suis pas
Mais eux, c'est des chercheurs universitaires. C'est de l'Université du Québec en Outaouais.
OK.
C'est Camille Leblanc, qui est une candidate au doctorat en psychologie. Et elle a voulu justement identifier les comportements. Puis, quand on est chercheur, on veut chercher la bébête parce qu'on veut trouver des réponses à nos questions, puis on veut tenter de trouver des solutions cas échéant. Et donc, entre la moyenne d'âge, même si c'est entre 16 et 83 ans, on dit que c'est 24 ans. Mais Elle ne dit pas que parce que tu consommes de la pornographie, ton comportement sexuel va être à risque.
Non, la corrélation n'est pas faite, mais il y a deux lignes qui semblent se suivre, mettons, en termes de graphique.
C'est ça. Donc, ce qui va arriver, c'est que chez ceux qui consomment de la pornographie, il y a plus de cas de personnes qui n'utilisent pas, par exemple, le condom pour avoir des relations sexuelles chez ceux qui consomment de la pornographie comparativement à ceux qui n'en consomment pas. Mm. Donc, ceux qui n'en consomment pas, règle générale, vont être plus prudents dans leur sexualité, vont avoir moins de partenaires, vont changer moins souvent de partenaires. Et c'est le contraire, règle générale, chez ceux qui consomment de la pornographie.
J'allais dire, c'est des catholiques, mais le pape ne veut pas qu'on mette de condom.
Est-ce qu'on mélange pas celui-là? Est-ce qu'on mélange pas un peu la cause à effet? C'est pas d'abord parce que tu as des comportements un peu plus erratiques, sexuels, que tu as plus tendance à consommer de la pornographie plutôt que l'inverse. Dans le fond, la cause n'est peut-être pas la pornographie, mais d'abord les comportements sexuels déviants plutôt ou dangereux, comme vous l'avez souligné.
Prochaine recherche. Ben,
tu soulèves un bon point parce que cette chercheur-là, exactement ça. Il dit, même si cette étude permet de constater que les consommateurs de pornographie ont des comportements sexuels plus à risque, elle ne permet toutefois pas d'établir une relation de cause à effet entre ces deux réalités.
Mmh. Intéressant. Donc, pareil, tout ça, Éric Lantier.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait.
On peut en lire plus, en apprendre plus sur ton site ericlantier.net. C'est bien ça.
.net, tu
l'as. Et les réseaux sociaux. Merci, Éric. On s'en parle la semaine prochaine.
Au plaisir, bye-bye.
Toujours sympathique, Éric Lantier, on s'arrête deux instants, on parle à Francisco Cavatorta, normalement d'affaires internationales. Donaldo est au Japon en ce moment, il y a un petit dégonflement sur la tension avec l'Iran, puis on aborde les élections en Inde des derniers jours, manquez pas ça, ça va être malade.